Voici maintenant votre bulletin d'actualité locale pour ce jeudi 23 juillet. La pression monte sur les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique alors qu'elles ont tenu hier une seconde conférence de presse imprévue en moins d'une semaine. Près d'un millier de personnes sont présentement en isolation, elles ne peuvent ni travailler, ni voir leurs amis et profiter de l'été, comme nous, a indiqué la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry, en demandant aux Britanno-Colombiens de restreindre leurs interactions physiques à leurs bulles respectives. Notre journaliste Marie-Paul Berthiaume nous rapporte que le nombre de nouveaux cas en Colombie-Britannique continue son ascension avec 62 nouveaux depuis lundi. Aucun nouveau décès n'a été enregistré dans la province et 2888 personnes sont maintenant rétablies. Il y a un nouveau cas depuis lundi dans la régie de santé de l'île de Vancouver et le nombre de cas actifs se chiffre désormais à 8. Des modifications ont été apportées aux recommandations de la santé publique en ce qui a trait aux bars et aux restaurants, comme la plupart des nouveaux cas d'infection récents y sont liés. Les clients devront rester assis en tout temps lorsqu'ils se trouvent dans ces établissements qui fermeront désormais à 23 heures. L'accès à la piste de danse dans les bars sera interdit. La Dr Henry tient à rappeler que c'est la multiplication des groupes auxquels on s'associe jour après jour qui pose problème, même lorsqu'il s'agit de petits groupes. La santé publique doit présentement faire un suivi avec une trentaine de personnes par nouveau cas infecté. Or, les modélisations indiquent que les autorités sanitaires doivent pouvoir retracer 75% des contacts d'une personne infectée dans les 48 à 72 heures suivant un test positif afin d'empêcher une transmission exponentielle du virus. À partir de demain midi, les feux à ciel ouvert seront interdits, sauf les feux de camp. Cette interdiction est mise en place afin de limiter les risques de feux de forêt. Elle s'applique à tous, sur les terres privées comme publiques. Je vous rappelle que si vous êtes pris en train de faire un feu, eh bien c'est une amende de 1 150 $ et cela peut aller jusqu'à 10 000 $. Si vous observez un feu, eh bien pour appeler le plus vite possible les secours, les pompiers, il suffit de faire le 555 depuis son téléphone cellulaire. Si ce n'est pas un téléphone cellulaire, un autre numéro gratuit existe. C'est le 1-800-663-5555. 1-800-663-5555. Et je le rappelle, depuis votre téléphone cellulaire, 5555. Une adolescente de Saanich recherchée. La police de Saanich fait appel à l'aide des citoyens pour retrouver une adolescente disparue qui se trouverait peut-être au centre-ville de Victoria ou à Beacon Hill Park. Emily Patty, âgée de 15 ans, est décrite comme autochtone, mesurant 5 pieds 2 pouces avec une silhouette mince et des cheveux noirs. Les citoyens ayant des informations sur sa localisation sont priés d'appeler le 250-475-4321. 250-475-4321. Ou pour faire un signalement anonyme, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 1-800-222-8477. 1-800-222-8477. Un incendie de forêt dans le Grand Victoria, probablement causé par l'homme. Check News rapporte que les enquêteurs affirment que le feu de forêt qui s'est déclaré mardi dans les collines au-dessus de View Rio était probablement d'origine humaine. Vers 17h, mardi soir, de la fumée a été vue s'échapper du parc régional Mill Hill, recouvrant rapidement la région. Des pompiers de Langford, Colwood, View Rio et Esquimalt ont été appelés pour combattre l'incendie sur ce terrain difficile. Du côté de View Rio, 2000 pieds de tuyaux ont été déroulés, du côté de Langford, 3300 pieds. C'est beaucoup, a déclaré le chef des pompiers de Langford, Chris Aubrey. Il fallait monter à environ 80 mètres de haut, ce qui crée également un défi pour pomper à cette hauteur, ajoute-t-il. Les équipes ont rapporté qu'il a fallu une heure pour monter et installer leurs tuyaux, ce qui a rendu l'intervention aérienne indispensable. Mercredi, alors qu'ils étaient encore actifs, les pompiers ont affirmé que l'incendie était entièrement maîtrisé. La phase de nettoyage a depuis commencé, une enquête peut maintenant être menée. Il n'y avait pas de conditions météorologiques qui auraient pu causer cet incendie, donc pour l'instant, nous considérons cet incendie comme causé par l'homme, a déclaré le chef des pompiers de Langford. Les eaux usées du Grand Victoria testées pour le coronavirus. Times Colonist rapporte que cette semaine, une équipe de chercheurs de l'Université de Victoria collecte des échantillons d'eau usée des stations de pompage locales pour détecter d'éventuelles traces de la COVID-19. Le matériel génétique du coronavirus se retrouve dans les excréments humains. Ce projet pourrait donc devenir un système d'alerte pour les autorités sanitaires afin de prévenir des épidémies, a expliqué Heather Buckley, responsable du Green Safe Water Lab. L'étude des eaux usées pourrait être un moyen beaucoup plus rapide que de tester les individus pour repérer la COVID-19, car les données sur les taux d'infection peuvent être en retard par rapport aux transmissions réelles. L'Université de Victoria a déclaré que la recherche indique que des signes du virus peuvent apparaître dans les eaux usées avant même que les gens ne soient symptomatiques ou même apparaître s'ils sont tout simplement asymptomatiques. Étant donné que Victoria est à un point proche de zéro d'infection à la COVID-19, toutes les données collectées maintenant fourniront une base de référence, de comparaison pour quand le virus reviendra. La collecte d'échantillons de 200 ml d'eau usée se fera sur une période de 24 heures chaque semaine et l'analyse des données commencera aussitôt, a précisé Madame Buckley. Le projet dirigé par UVic est financé par la subvention de l'Alliance du Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Les subventions Alliance favorisent les collaborations entre des chercheurs universitaires et des organismes partenaires du secteur privé, du secteur public et du secteur sans but lucratif. Un appel à l'amélioration de la rue Charlebourne pour les pistes, pour les cyclistes et les piétons. Des groupes de cyclistes et de piétons se mobilisent afin de voir des améliorations immédiates pour la rue Charlebourne à Saanich, qui voit une circulation réduite en raison de la pandémie COVID-19. Vic News rapporte que l'Organisation de défense des piétons du Grand Victoria et la Coalition des cyclistes du Grand Victoria veulent voir des cônes être installés pour protéger les pistes cyclables et des trottoirs élargis. Ils espèrent que de tels changements pourront être adoptés de façon permanente dans le cadre des améliorations en cours par le district de Saanich pour la rue Charlebourne. Les groupes ont rapporté qu'avec de nombreuses personnes travaillant à domicile et avec la suspension de la plupart des activités sur le campus par l'Université de Victoria et le Collège Camosun, la circulation le long de Charlebourne a considérablement diminué. Ils croient que les trottoirs les plus larges créeront un environnement plus sûr pour les piétons, non seulement en créant plus d'espace entre la circulation entre la circulation des véhicules et eux-mêmes, mais aussi en laissant plus de distance physique possible entre chacun. Reste à voir si leur appel sera entendu, c'est une affaire à suivre. Une exposition dans Fantal Alley. Vic News rapporte qu'une nouvelle exposition dans Fantal Alley, qui vise à sensibiliser les passants à l'histoire du quartier, ouvrira prochainement. L'exposition présente une carte de 1891 qui met en évidence Fantal Alley, également connue sous le nom de rue des Banques, en tant que centre économique reliant le commerce transpacifique vers les terres intérieures. À cette époque, le commerce de l'opium était encore légal et rapportait à la ville beaucoup de revenus, selon Tsui Chung, conservatrice de l'exposition. En face de cette carte se trouve une vitrine numérique présentant une lanterne faite à la main qui fut exposée, entre autres, au siège franc-maçon chinois, l'une des plus anciennes organisations chinoises du pays, datant de 1863. Madame Chong souhaite sensibiliser les passants à l'histoire des lieux tout en découvrant l'art et l'artisanat incroyable de cette époque. La lanterne est présentée en format numérique car elle est extrêmement fragile et n'est pas en état d'être exposée pendant de longues périodes. Le 16 juillet, la province a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour construire le premier musée canadien chinois dans le pays qui comprendra un centre d'art dans le quartier chinois de Vancouver ainsi que d'autres dans différentes régions. Madame Chung souhaite mettre en lumière le racisme anti-asiatique qui a été ressenti et pourquoi les nouveaux arrivants chinois commençaient souvent par s'installer dans ce quartier, en ajoutant que dans les années 1800, le pont de la rue Johnson n'était qu'un ravin se trouvant juste à l'extérieur du fort de Fort Victoria et qu'en raison de la discrimination, les Chinois devaient donc s'y installer. L'exposition ouvrira officiellement le 24 juillet. Concernant la pandémie COVID-19, toutes les informations les plus récentes se trouvent sur le site bccdc.ca. Vous pouvez également rester informé avec les articles de Marie-Paul Berthiaume, notre journaliste, sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca.